Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Dans cette période difficile que nous vivons, où la fermeture des églises est devenue une contrainte presque obligée, c'est souffrant, c'est difficile, la diminution aussi des gens qui vont à l'église, pourquoi ne pas voir surgir un petit sanctuaire à Marie, dédié à Marie, la Chapelle de Lumière à Québec? Pourquoi ne pas voir surgir ce lieu source? Un lieu où les gens viendraient, bon oui, pour faire leur dévotion, pour justement faire ce que le pape François a fait. Prendre le temps de parler à Marie, même s'il dit qu'elle devait avoir la tête grosse. C'est parce qu'on a le cœur gros qu'elle a la tête grosse, c'est-à-dire remplie de toutes ses demandes. Mais elle l'a dit, elle l'a promis qu'elle écouterait. Elle écouterait ses enfants. Elle les écouterait dans leur peine, dans leur joie. Alors oui, nous pourrions avoir ici à Québec, la Chapelle de Lumière. Une chapelle où les gens viennent, ils sont accueillis par des gens qui s'en occupent, évidemment. Ils viennent prier, célébrer la Sainte Eucharistie, célébrer le pardon, allumer un lampion, entendre une source peut-être, réentendre l'amour de Dieu pour l'humanité, confié à Marie. Si l'évangélisation au Mexique a eu un tournant exceptionnel par le fait que Marie est intervenue en 1531, par les apparitions à Juan Diego. Rappelez-vous cette histoire difficile, ce peuple qui était prisonnier de conceptions épouvantables, ces martyrs humains, chaque jour il fallait du sang humain pour que le soleil se lève. Mais c'était terrible comme conception. Alors Marie est intervenue dans l'évangélisation du Mexique. Bon, elle continue. Mais Marie aussi intervient dans l'évangélisation du Québec. Il y a des lieux qui sont consacrés à Marie. Mais dans la ville de Québec, nous avons la basilique, évidemment, qui est consacrée à l'Immaculée Conception. Mais nous pourrions avoir, il y a le sanctuaire Notre-Dame des missionnaires du Sacré-Cœur, mais pourrions avoir une chapelle, la Chapelle de Lumière, dédiée à Marie, l'Immaculée Conception. Notre-Dame de Lourdes, ici à Québec. Moi, c'est quelque chose que je porte depuis très longtemps. Ici, à la radio, on a fait la petite Chapelle de Lumière, mais peut-être que c'est le prélude à la Chapelle de Lumière qui arrivera un jour dans un contexte particulier, où on a besoin d'être unifié et rassemblé dans une dimension de prière et de présence. La Chapelle de Lumière serait un signe de la présence lumineuse du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint chez nous et pour notre peuple, pour notre ville, pour la sanctification de notre ville.
Thank you.
Je vous propose maintenant la lecture en continu du livre de Serge d'Alins, La couronne de pierre, qui nous plonge dans l'univers des persécutions des premiers chrétiens. L'oncle et le neveu ne se ressemblent guère. Autant Licinius était généreux, autant Porphyrius est pingre. Autant Licinius était tolérant, autant Porphyrius est intraitable et dur. Les funérailles sont à peine achevées que notaire et emballeur s'installent dans le bel hôtel particulier où Licinius avait réuni de merveilleux objets d'art. Coupes d'or et d'argent, vases d'albâtre, statuettes de marbre, d'ivoire ou de bronze, horloges, tapis de Perse et de Syrie, étoffes damassées, cuivre d'Asquiné, vaisselle ciselée sertie de pierres précieuses, éventail en plumes de paon, peau de tigre, de panthère, de lion. Porphyrius fait l'inventaire de ses nouveaux biens et désigne au déménageur ce qu'il conserve pour sa propre maison. Le reste sera vendu au plus offrant. Les affranchis qui continuaient à servir le maître sont jetés à la rue. Quant aux esclaves, eux aussi seront vendus. Généralement, un homme qui voit venir la mort ne part pas sans avoir rendu la liberté aux siens. Mais Licinius n'en a pas eu le temps. Les voici exposés sur un plateau tournant près du forum. Pour aider le crieur qui vend à grand renfort de voix sa marchandise, un écriteau informe l'acheteur de l'âge et de la race. On palpe les esclaves, on les tâte, on les fait tourner et retourner, ouvrir la bouche pour examiner leurs dents. On s'informe de leurs vices et de leurs maladies. Le jeune Claude, esclave, est déchiré d'angoisse. Que va-t-il advenir de lui ? Chez Licinius, Hippias, un esclave athénien, qui aurait pu être son père, lui a secrètement révélé de merveilleuses raisons de vivre et d'espérer. Plus que tout, Claude craint d'être séparé de lui. Il a supplié Porphyrius de les garder tous les deux, mais le neveu n'a rien voulu entendre. Aussi, son seul espoir est de pouvoir partager le sort d'Hippias, d'être vendu en même temps que lui. Il pense sans cesse à Licinius, qu'il a fait instruire dans la meilleure école du quartier, et soigné par son médecin lorsqu'il était malade. Il ignore pourtant que, touché de compassion, en le voyant si petit, si démuni, si frêle, Licinius l'a acheté sans nécessité aucune, sur ce même marché où le voici à nouveau exposé. Ce blondinet n'a plus ni père ni mère. Essayons de lui donner des maîtres acceptables. À l'époque, sa femme vivait encore et veillait sur l'enfant. Claude regarde autour de lui. Ils sont une centaine d'hommes, de femmes, d'enfants mis à l'encan, noirs, jaunes ou blancs, la plupart venus d'Afrique ou de la lointaine Asie. Les amateurs passent et repassent, lents à choisir, le plus souvent devancés par les marchands d'esclaves qui savent bien acheter pour revendre mieux encore. Porphyrius a donné des ordres. Son intendant discute âprement avec les clients éventuels. Un revendeur s'intéresse à l'Athénien, le fait marcher, sauter, courir, soulever un coffre pesant et lutter avec l'un des hommes qu'il vient d'acheter. La discussion s'engage, interminable, sur le prix à payer. Tandis que d'un visage encore marqué par l'effort, des perles de sueur roulent sur un torse de bronze. Enfin, l'accord se fait. L'intendant compte et recompte 10 000 sesterces, qu'il enfouit dans sa sacoche de cuir. C'est un très bon prix. À peine le marchand d'esclaves a-t-il jeté un regard distrait sur Claude, trop gringalet, trop jeune pour les travaux de la terre ou de la ville. À la rigueur, un page dans quelque grande maison. Mais ce n'est point là sa clientèle. Porphyrius a recommandé à son intendant de mener rondement la vente de l'enfant. Il tient à se débarrasser au plus vite de cette bouche inutile. Tant pis s'il doit faire quelques concessions sur le prix. Mais celui qui a payé l'Athénien fort cher ne veut rien entendre. Si on lui offre Claude en prime, il accepte de le prendre pour 5 oreilles. Pas un sesterce de plus. « Tu plaisantes ?» proteste l'intendant.
Un garçon qui sait lire, écrire et compter, qui danse et joue de la flûte, qui mange comme quatre sans doute et ne saurait rien faire à la forge ou à l'étable. Vends-le à un rhéteur dont il recopiera les discours, ou mieux à quelque riche barbare dont il éguera les soupers.
Claude ne peut se retenir. Quoique entravé, il parvient à se jeter aux genoux de l'homme et le supplie. « Achète-moi, et je ferai tous les travaux que tu voudras. Je suis plus fort que tu ne crois, et je grandirai vite. »«
Prends le petit, » dit Hippias à son nouveau maître. « Prends-le, tu ne le regretteras pas. Je me porte garant de son courage. »
Mais le marchand ne se laisse pas fléchir.
« Assez parlé, toi le gamin, cesse de pleurnicher, et toi, l'homme, suis-moi. »
Il ne peut empêcher Claude de tendre les bras vers son dernier protecteur qui l'embrasse et lui dit en desserrant son étreinte
« Sois courageux, mon fils. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. »
Le soir venu, une dizaine d'esclaves n'ont pas encore trouvé preneur. Trop laid, trop vieux, trop gros, trop maigre. Et Claude, trop jeune. Le lendemain, il pleut. Sur le marché, la concurrence est moindre. L'enfant est vendu un prix raisonnable à un marchand phénicien qui préfère attendre et le revendre beaucoup plus cher lorsqu'il aura atteint 16-17 ans. Porphyrius est satisfait. Cet héritage inattendu lui a procuré un mobilier magnifique, des sommes considérables. Il fera l'effort de sacrifier un chevreau pour remercier les dieux. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.